2020 à début 2022, j'ai pas fait un seul outreach. C'est 100% inbound. Donc c'est sûr que c'est extrêmement agréable. On refuse des clients.
C'est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 191e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de commencer l'année en force, rendez-vous au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/hypercroissance afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match pour débuter janvier de la bonne façon. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. Ce qui se mesure s'améliore. C'est un des dictons que j'applique le plus dans mon quotidien, autant au niveau personnel que professionnel. Maintenant, est-ce que vous arrivez à bien suivre toutes les métriques dans votre entreprise? Possédez-vous des tableaux de bord vous permettant de juger en un clin d'œil comment se comporte votre organisation? Notre invité du jour, Cyril Marquez, président et fondateur de la firme Montreal Analytics, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de data. Lancé au début de la COVID, son entreprise est venue combler un manque énorme dans le marché et la croissance est vite fait ressentir. En l'espace de 2 ans seulement, sa société a atteint plus de 6 millions en revenus annuels et compte à ce jour plus d'une cinquantaine de collaborateurs dans ses rangs. Un entretien des plus fascinants pour commencer 2023 de la bonne façon. Sans plus attendre, ma discussion avec Cyril Marquez. Cyril Marquez, tu es le président et fondateur de l'entreprise Montreal Analytics, une firme d'analyse de données établie depuis 2020. Lancée au tout début de la COVID-19, ton entreprise a vécu une croissance excessivement rapide en atteignant plus de 50 collaborateurs en 2 ans seulement et en ayant un chiffre d'affaires avoisinant les 6 millions à l'année. Cyril Marquez, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine, je suis très très content d'être ici et de parler de Montreal Analytics.
Et Cyril, j'ai décrit Montreal Analytics comme une firme d'analyse de données. Est-ce exact? Et peut-être tu pourrais nous dire un petit peu plus en détail ce que vous faites et pour quels clients vous le faites également.
Bien sûr. Alors, on fait pas de l'analyse pour nos clients. Ça, c'est important à comprendre. Nous, on est vraiment des experts où on va intervenir sur tout ce qui est infrastructure, architecture et mécanique de l'analyse de données. Mais on va pas dire à nos clients, voilà, vous avez tel point de données, vous devriez faire ça ou vous devriez analyser tel type de choses. Nous, on arrive et on met en place des plateformes de données. Ça va être de l'ingestion de la donnée jusqu'à l'entrepôt, la modélisation, puis après l'exploration, la visualisation. Et effectivement, on accompagne nos clients pour tout ce qui est compréhension et création des métriques qui doivent suivre. Mais c'est pas nous qui leur disons quoi faire. Nous, notre axe, c'est vraiment, quand on travaille avec nos clients, on ne sera jamais aussi bon que vous pour comprendre votre business, comprendre votre compagnie, votre marché. Donc, laissez-nous vous apprendre à pêcher et puis voilà, vous allez vous débrouiller tout seul après.
Et Cyril, Montreal Analytics, c'est pas ton premier projet en affaires. Tu as également travaillé à l'intérieur de certaines organisations comme Bus.com, par exemple. Tu as l'air de toujours naviguer entre projets entrepreneuriaux, travailler dans des sociétés d'un autre côté. Peux-tu nous dire, là, après toutes tes années sur le marché professionnel, c'est quoi qui t'a finalement poussé à vouloir lancer Montreal Analytics?
C'est vrai que j'ai un parcours parfait pour faire de l'entrepreneuriat, dans le sens où j'ai travaillé dans tout. J'ai commencé en finance, j'ai enchaîné après avec de la vente, du marketing, j'ai enchaîné après avec la gestion de produits. Mais le fil rouge de tout ça, c'est que j'ai toujours été quelqu'un, par exemple, le Excel guy. C'est-à-dire que évidemment, j'ai fait mes armes en finance, donc je suis devenu très très vite je codais en VBA, j'étais très très bon, je pense être toujours pas mauvais, mais peut-être sans doute moins bon maintenant en Excel. Et ce qui fait que dans toutes mes différentes jobs par la suite, dès qu'il y avait quelque chose à faire en manipulation de données, c'était vers moi qu'on se tournait, et je le faisais de manière proactive de toute façon, parce que j'aime vraiment ça là, Excel, c'est triste à dire, mais j'aime vraiment ça. Et donc, voilà. Et puis après, j'ai toujours été un petit peu, c'était toujours mon mon optique de lancer ma compagnie, c'était vraiment, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. J'aurais aimé vraiment avoir une compagnie à succès avant mes 30 ans, mais bon, ça sera avant les 40 ans, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, comme j'ai toujours eu cette appétence un peu donnée, si tu veux, j'ai été assez vite, après ces différentes petites expériences, amené à faire le rôle d'analyse de données, ou alors d'ingénieur de données, si tu veux, dans des startups. Là, quand je suis arrivé au Canada, en fait, c'était pas mal mon rôle dans une petite startup qui s'appelait Viral Ninja. Et donc après, I was hooked. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pris et je me suis dit que tu sais, j'allais en faire plus. Et après, entre temps, j'ai lancé 2-3 autres projets d'affaires. J'avais un comic book store à Trois-Rivières pendant quelques années. J'avais aussi une compagnie. J'étais pas tout seul hein, dans l'histoire, bien sûr. J'avais aussi une compagnie de gestion d'événements liés à la science-fiction fantasy type Comic-Con. Après, j'ai lancé aussi une marque de vêtements qui s'appelle Grasse Poutine, destinée au marché français. et puis après, j'ai lancé une autre petite start-up aussi il y a quelques années qui s'appelait Broid avec des cofondateurs qui étaient dans tout ce qui était chatbot. Et bon, tout ça n'a pas été un grand succès, hein, mais j'ai appris pas mal de choses, si tu veux. J'ai appris déjà que il fallait persévérer, c'est sûr. Et alors, comment on est arrivé à Moral Ethics? En fait, donc, j'étais chez bus.com, là, tu l'as mentionné, où là, je m'occupais de la plateforme de données avec l'équipe data. Et, à un moment, voilà, je trouve que je me suis dit, j'aime bien faire ce que je fais, mais j'aime bien mettre en place. J'aime pas forcément maintenir, si tu veux. Et puis, bon, tu sais, moi, après, mes opinions commençaient à différer avec la compagnie, là. Donc, tu sais, je suis parti, bons amis. Et puis, j'ai commencé à faire du freelance sur le data. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais sortir de tout ce qui est organisation, tu sais, meeting interne, politique, etc. Je vais juste faire du data en freelance. Et donc, j'ai commencé comme ça. L'avantage d'être quelqu'un qui a fait de la vente, c'est que j'ai commencé le freelance, on m'a dit, ça allait prendre du temps à démarrer. C'est faux. Faut se faire un réseau, etc. Mais moi, quasiment dans les 3 premiers mois, je me retrouvais avec plus de jobs que je pouvais en faire par semaine. Et donc, là, on est fin 2019 pour placer un peu le timeline. On arrive fin 2019 et donc, faut que je fasse un choix parce que je suis à 60 heures de facturation par semaine. Alors, c'est sûr que j'imprime les billets, là. On s'entend que c'est agréable. Mais c'est pas quelque chose qui, j'ai pas envie de travailler 70 heures par semaine juste contre de l'argent, quoi. C'est pas un truc qui m'intéressait plus que ça. Donc, fallait que je choisisse. Est-ce que je dial down? Comme ça, tu sais, je reste à, tu sais, 30, 40 heures par semaine et puis, tu sais, je vis quand même très bien, très confortablement. Ou est-ce que j'en fais une business et je vais chercher mes employés? Donc, étant quelqu'un qui aime bien tenter, j'ai décidé d'aller chercher mon premier employé et donc c'est pas mal comme ça que c'est né, donc tout début 2020.
Et le premier employé, son premier jour de travail, c'est le lendemain de la fermeture d'à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer d'entreprise au Québec pendant la COVID, parce que bon, si je me trompe pas, c'est en mars 2020 que ce premier employé-là s'est joint à vous. Donc, t'es dans une situation que tu dis, les choses vont bien, j'ai un bon salaire, on va dire ça comme ça, en freelance. Je veux engager un employé, mais le moment que t'engages un employé, on dirait que pour certaines semaines, c'était la fin du monde. Ça t'a pas donné le goût de reculer un peu ou finalement t'es allé de l'avant?
Alors, c'est sûr que c'était vraiment comique. Maintenant, rétrospectivement, c'est comique quand même que le premier jour, ce soit le moment du confinement total de l'économie mondiale et même de toute la planète. Alors, l'avantage, c'est que j'avais créé de la réserve, tu sais, financière. Donc, j'avais quoi devoir venir 6 mois de salaire de ce premier employé. Donc, je me dis, si je me paye pas, c'est pas grave, mais je peux assumer de le garder 6 mois sans qu'on ait aucun revenu. Maintenant, le gros avantage de Moral Ethics, en fait, de l'industrie de Moral Ethics, c'est que la donnée, c'est d'actualité. C'est-à-dire que toutes les compagnies ont besoin de manipuler la donnée et d'en faire quelque chose. Et encore plus avec le confinement, les compagnies, ils ont vraiment réalisé que quand les gens étaient pas là, forcément à qui on pouvait poser des questions. Ils avaient besoin d'avoir des dashboards ou des rapports qui leur arrivaient sans qu'il y ait besoin de quelqu'un forcément à qui poser la question directement. Donc, alors il y a eu un petit ralentissement, c'est sûr que voilà, avril-mai, je m'attendais à de la croissance. Bon, il n'y a pas eu de croissance, mais alors après c'est reparti assez rapidement et donc ça a fait un petit peu peur, mais au final l'opportunité était là. Très bon timing au final, franchement, pour nous.
Et je pense que les chiffres parlent pour toi également. Tu clôtures ta première année, comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes à 6 millions de chiffre d'affaires, mais après la première année, vous faites 1,5 million de chiffre d'affaires. Ouais, vous avez des clients de renom comme Reitmans, un petit peu plus que 500 000 même. Comment tu grandis aussi vite? Je peux croire que tu avais peut-être une certaine réputation. Des gens venaient vers toi pour avoir ton expertise, mais tout de même, bâtir une entreprise à plus d'1,5 million de dollars après une année seulement, 6 millions après quelques années, 2 ans et demi à peu près, il faut une expertise assez brillante, je dirais même, en développement des affaires. Comment tout ça s'est mis en place?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on a, on a grossi quand même très, très vite. Je disais, le timing est quand même important parce que la COVID a quand même accéléré. Il y a eu tout un influx d'argent, si tu veux, créé par les taux très faibles, ce qui fait que les compagnies se sont retrouvées avec de l'argent disponible à l'investissement, et la plupart des compagnies étaient sous-équipées en termes de plateforme de données. Et donc, on s'est retrouvé avec quand même beaucoup de compagnies qui venaient nous voir. J'ai fait de 2020 à début 2022, j'ai pas fait un seul outreach, c'est 100% inbound qui fait nos fois. Donc c'est sûr que c'est extrêmement agréable. On refusait des clients parce qu'on n'arrivait pas à embaucher assez vite. J'imagine qu'on va en discuter de ça. Donc après, ce qui a été vraiment stratégique pour nous dès le début, c'était des partenariats technologiques. Moi, mon optique quand j'ai commencé mon ATIC, c'était je vais faire les technologies, je vais proposer des services sur les technologies que je maîtrisais, là, on s'entend, mais des technologies sur lesquelles, si j'étais un directeur data, un VP data dans une organisation, je voudrais cette stack de données, cette stack plateforme. Peu importe le budget, c'est les meilleures technologies sur le marché. Et c'est ça qu'on veut proposer comme service. L'avantage aussi, c'est que ces technologies, elles sont très récentes. Alors, c'est un avantage et un désavantage à la fois, dans le sens où un avantage où il y a très peu d'expertise sur le marché, donc il y a beaucoup besoin de firmes comme la nôtre. Mais c'est aussi un challenge pour nous de recruter des gens et d'arriver à les former rapidement sur ces technologies.
Intéressant. Puis, on le voit pour ta première année, 1,5 million, tu refuses peut-être des clients, comme tu le dis. Qu'en est-il par la suite pour les autres années? Est-ce que c'est uniquement grâce un petit peu à ce que tu nous as mentionné avec, et pardonnez-moi l'anglicisme, tes channel partners que tu arrivais à générer de la clientèle? Est-ce que c'est ça qui te donnait un afflux de clients aussi rapidement?
La première année, oui. Là, la première année, tu as plus 50% du chiffre d'affaires qui venait de nos partenaires technologiques, en fait, qui eux avaient tout un tas de nouveaux clients, mais qui, pour s'assurer qu'ils allaient avoir du succès avec leur plateforme, je vous présente mon analytics, ils vont vous aider, etc., etc. Donc la première année, c'était vraiment beaucoup de channels, de partenariats. Deuxième année, c'est là où on a commencé à se faire un petit nom. On a commencé à grossir, on a des 4 employés la première année. Deuxième année, on a fini à 32. Et là, on a commencé à. Moi, je suis persuadé que le contenu, une bonne stratégie de contenu, c'est hyper important. Et donc, on était très présent sur tout ce qui est communauté data. Donc, on partageait des articles de blog, des guides, des tutoriels. Et notre blog, il nous a attiré juste cette année 70 leads, par exemple, qualifiés. Donc, pour une compagnie de notre taille, c'est pas si mal. Et au-delà de ça, on est vraiment axé open source chez Moralytics et ça permet de ce blog technique, on donne notre expertise. Je trouve que c'est un bon moyen de redonner à la communauté aussi. Donc, si tu veux, c'est à la fois cette croissance, elle est générée à la fois par le marché qui était évidemment avec beaucoup d'argent, des partenaires qui nous adoraient et en plus, à côté de ça, le fait qu'on avait une bonne stratégie de contenu pour créer de la connaissance de Moralytics.
Et parlons un petit peu ressources humaines maintenant. Soyons honnêtes, là, t'es quand même dans un milieu assez compétitif au niveau des talents, au niveau des ressources que tu vas attirer dans ton organisation. Puis c'est quand même assez intéressant parce que dans un appel qu'on a eu, je pense, la semaine dernière ensemble, tu me disais que tu possèdes des employés au Canada, au Brésil, au Kenya, au Nigeria et même en Inde, si je me trompe pas. Ouais, alors, est-ce que c'était clair pour toi dès le départ, Cyril, que tu voulais avoir une organisation avec des employés un petit peu partout dans le monde?
Alors, c'était pas forcément l'objectif principal. Je précise que sur les 50 employés, il y en a quand même 45 au Canada, et que les gens qui sont en dehors du Canada, c'est pas la norme, dans le sens où moi, ce que je veux, c'est créer une compagnie avec une équipe. Donc, je veux des employés et idéalement des gens qui peuvent se retrouver assez facilement. Maintenant, tu l'as dit, le marché est très compétitif par rapport aux expertises que nous on cherche, et donc les talents, il faut aller les chercher où ils sont aussi. Donc c'est sûr que voilà, des Brésil, moi j'aime bien le Brésil, j'y habitais, donc il y avait un peu de ça. Kenya, Nigeria, c'est des gens qui nous ont été voilà, qui sont arrivés par des références. En Inde aussi, on a eu au Portugal, on a eu aussi en Serbie. Donc voilà, on a quand même, on est en fait, si on a une personne exceptionnelle, ça me dérange pas que ce soit pas au Canada.
Mais c'est quand même 45 personnes au final en ce moment qui sont au Canada. Donc, tu bâtis une grosse partie de ton équipe ici. Puis bon, tu m'avais dit que le volet culture, c'est quand même assez important chez vous. Je pense que vous possédez une transparence complète sur les salaires dans l'organisation. Est-ce que c'est toi qui personnellement est impliqué dans le volet culture? Puis je serais curieux un petit peu de t'entendre sur comment tu approches le tout au niveau de la philosophie que tu vas amener, aux valeurs que tu vas intégrer dans l'organisation?
Alors, moi, je suis aussi, j'ai beaucoup de convictions, mais pour moi, une culture forte de compagnie, c'est l'assurance du succès. Parce que, à partir du moment où on considère chacune des décisions qu'il faut faire sur la compagnie à travers la lentille de la culture qu'on a définie, ça permet d'éviter du temps perdu ou d'agoniser sur des décisions ou de pas être certain. Donc pour moi, une culture forte avec on est tous d'accord que voici les attitudes qu'on veut avoir au sein de cette organisation et il y a pas de compromis sur cette culture. Et donc dès le début, moi, il y a quelque chose qui était très important pour moi, c'est que je voulais créer une compagnie où il y avait pas de politique et le moins de drama possible. Alors comment on fait ça? Ben c'est vrai, mais c'est facile à dire. Le fait est que pour
est-ce
moi,
est-ce que c'est parce que t'étais dans des entreprises avant qui en avaient un petit peu trop? Ouais, c'est ça.
Moi, mais toutes les compagnies que j'ai faites, c'est pas une spécifiquement ou deux, c'est toutes les compagnies que j'ai faites. Il y a forcément du drama quand il s'agit, dès qu'il y a de l'argent ou dès qu'il y a des titres ou des choses. Alors moi, je me suis dit, et je suis pas le premier, hein, loin de là, à l'avoir fait. Il y a beaucoup de compagnies qui l'ont fait avant. Et justement, je me suis grandement inspiré de celle-ci. Je me suis dit, ça commence par la transparence des salaires. Une grille qui est la même pour tout le monde et il n'y a pas de négociation à l'embauche. C'est-à-dire que nous, quand les gens, et on perd des gens à cause de ça, hein, parce qu'on ne veut pas bouger de 2 000 $ sur l'année, parce que si on bouge de 2 000 $ pour cette personne, on change pour tout le monde. Et on l'a fait par le passé. À ce moment-là, si on révise la grille, on révise la grille pour tout le monde. Alors c'est sûr, c'est des bonnes nouvelles pour la plupart des employés quand ça arrive. Mais nous, on se dit, voilà, on a une formule de salaire, le salaire de base, le bonus qui est le même pour tout le monde. Ensuite, il y a les augmentations annuelles qui est la même pour tout le monde aussi, après les anniversaires d'emploi. Il y a tout un tas de choses qui sont offertes aux employés de la compagnie. Et tout le monde est traité de la même manière. Et tout le monde sait combien gagne tout le monde. Comme ça.
C'est assez. Puis tu vois, c'est un point intéressant. Puis j'aimerais t'entendre ici, Cyril. Je parlais avec Virgil Ringer dans un podcast.
Oui, je l'ai écouté. Il y a deux excellent semaines. Podcast.
T'as écouté le podcast. OK. Et c'est assez exceptionnel. Bon, pour les gens qui l'ont pas écouté, allez peut-être jeter un petit coup d'œil. Donc, Virgil, il possède une HR tech en forte croissance en Europe. Mais le point intéressant, c'est que Virgil a œuvré dans le domaine des ressources humaines pendant 15 ans avant de se lancer en affaires. Et il parlait de cette dualité entre cette transparence qui peut être très bonne, mais qui, d'un autre côté, après recherche, il s'est rendu compte qu'elle peut être des fois néfaste parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les autres personnes sachent combien ils gagnent. Il peut y avoir plein de raisons. Des fois, c'est parce que tu veux pas nécessairement qu'une personne sache que tu gagnes moins que cette autre personne-là ou que tu gagnes plus ou que ton mari gagne moins que toi. Bref, il y a plusieurs points comme ça. Est-ce que tu as eu à analyser ça et à réfléchir profondément à différents points comme ça, peut-être même avec des spécialistes en ressources humaines, avant de mettre ta transparence des salaires de l'avant?
Non, ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je veux pas de compromis. C'est pour moi, c'est très important. veut pas dire que dans le futur, ça va pas changer. Il y a aussi la taille de l'organisation à prendre en compte. Hein. Là, aujourd'hui, c'est facile pour nous d'avoir une politique de transparence des salaires à 50. Peut-être qu'à 300, ça va être plus compliqué, je sais pas. Pour moi, c'est le problème de Cyril dans 3 ans. Cyril d'aujourd'hui, ça lui va très bien. Le fait est que, de toute façon, quand on a des candidats qui arrivent pour chez nous, nous, on est très transparents sur cette culture en disant voici comment on est, voici le salaire qu'on propose, il y aura pas de négociation parce que voici notre grille, c'est donné aux candidats. Donc il faut accepter ça. Et si les candidats n'acceptent pas ce qui arrive, ils seront jamais un bon fit chez nous. Donc de toute façon, ça permet de s'assurer que les gens auront... Alors la culture, tu sais, tout le monde n'est pas des clones évidemment chez nous, mais tout le monde est d'accord avec ces grands principes.
J'adore ça, parce que là, par la suite, c'est ce qui crée une solidité et tu évites les non-dits. Tu évites les non-dits, c'est écrit, c'est comme ça, parce que effectivement, soyons honnêtes, quand tu atteins le stade des 20, 30, 40 personnes, ça commence à discuter un peu dans l'organisation, ça discute salaire, tout ça. Donc, si jour 1, tu peux régler ça une fois pour toutes, ça peut avoir beaucoup de positifs. Donc, je comprends très bien d'où est-ce que tu te situes avec ça.
Je trouve que le positif, il est beaucoup plus important que les points négatifs là, à date, qui sont qu'on rate peut-être des candidats. Mais encore une fois... Pour moi, là, une culture forte où les gens, ils savent, ce qui est attendu d'eux en termes d'attitude et de choses à ne pas faire aussi, ça permet vraiment grandement de s'assurer que, il n'y a pas de décisions qui sont faites sur une émotion ou qui vont à l'encontre de la culture parce qu'on se dit non. On a décidé d'être transparent, on va vous annoncer ça. On a décidé une de nos autres piliers c'est performance. Il y a des attitudes de performance qui sont attendues. Donc par exemple qu'on fait des sessions de feedback, eh ben on regarde voici ce que pour nous est un performer chez Moralitix. Est-ce que tu réponds à ces attitudes? Oui, non, tu sais, on discute. Pourquoi? Le feedback est extrêmement important. On a énormément d'outils de feedback dans Moralitix. On a même une plateforme qu'on utilise, plateforme montréalaise Office Vibe. Là, je sais pas si t'as entendu parler d'eux.
Bien sûr. Ok. On l'utilise aussi.
Donc tu connais bien. Donc c'est assez utile. Et ça permet aussi aux gens, d'être à l'aise à donner des feedbacks. Et de toute façon, on a vraiment cette culture de c'est important de donner des feedbacks, même à moi, si j'ai fait quelque chose que quelqu'un n'est pas à l'aise, ils vont me le dire. Et après, il y a donner le feedback, mais à recevoir le feedback est encore plus important. Comment on s'assure que quand quelqu'un donne du feedback, ne pas être sur la défensive et attaquer par derrière, c'est très important. Donc, accepter le feedback, le laisser reposer, y réfléchir. Et puis après, on rediscutait.
Un autre point que j'aimerais discuter avec toi avant qu'on parle davantage du volet data, tu as parlé de bonus qui étaient les mêmes pour tout le monde. Quelle est la structure que tu mets en place autour de ces bonus? Est-ce que c'est des bonus à la performance? Est-ce que c'est selon les revenus, la croissance de l'organisation?
Aujourd'hui, c'est juste le bonus. Il est le même pour tout le monde, de moi jusqu'au plus petit niveau de la grille salariale ou de la job. Et c'est uniquement indexé sur les targets de revenus. Donc, si on fait 110%, si on fait 90%, le bonus est impacté.
Donc, et uniquement sur les revenus et non sur la profitabilité.
Voilà. Alors, mon point, c'est que si on fait nos revenus, on est profitable parce que un bon financier, je m'assure.
Tu fais tes calculs préalables.
Oui. Là-dessus, moi, j'ai des bonnes feuilles Excel. Donc, de toute façon, quand on est petit, si on fait pas le revenu, on est moins profitable, évidemment. Mais pour moi, l'équipe doit pas forcément être impactée. On a des réserves, là, qu'on a accumulées, sur les 2 dernières années. Et là, c'est sûr que le marché est un peu plus tough, là, si tu veux. Donc, c'est quand même plus la même chose. Mais voilà, j'ai toujours l'équipe en tête en premier. Et s'il faut taper dans la trésorerie, mais l'équipe a fait la job, c'est pas de sa faute si le marché, est moins en croissance. Si je peux me le permettre, je paye les bonus.
J'adore ce que j'entends.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que G7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe G7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.g7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment qu'on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Parlons un peu d'ATA maintenant. Donc, c'est le sujet de ton entreprise et c'est un sujet que beaucoup d'organisations en ce moment explorent, se posent des questions. J'imagine que tu as été en première scène pour voir cet intérêt grandissant au cours des dernières années. Bon, comment ça fonctionne spécifiquement travailler avec vous? Qui va faire appel à vous? Quelles sont les raisons spécifiques qui vont pousser un client à venir vous voir? Quelles problématiques veulent-ils régler? Je serais curieux de t'entendre ici.
Alors, c'est multiple. On va peut-être prendre deux cas de figure. La compagnie qui veut s'équiper parce qu'ils ont rien, c'est pour simplifier, et la compagnie qui a quelque chose mais qui veut migrer vers quelque chose de plus moderne, par exemple. Si on touche sur la partie déploiement, là, ce qu'on appelle vraiment les greenfield deployments en anglais, ça va vraiment être ces personnes arrivent et commencent à discuter, ils nous disent voilà, aujourd'hui on aimerait avoir des rapports. On aimerait avoir des dashboards, on aimerait savoir où on va, etc. On est en train de lever des fonds. Nos investisseurs ont besoin d'avoir ces chiffres. Comment pouvez-vous nous aider? Donc nous, on a des je l'ai mentionné plus tôt, on a des plateformes technologiques favorites. Et derrière, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre la compagnie. On fait un petit audit, un état des lieux. On discute avec les différents personnes sponsors du projet. Et après, on présente une feuille de route avec un déploiement à la fois technologique et de formation. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. Pour tout ce qui est déploiement pour des petites organisations ou des plus grosses.
Et ça ressemble à quoi un peu les clients qui viennent vous voir habituellement?
Alors, ça va être une startup, tu sais, par exemple, qui vient de passer sa série A. Donc, qui a les moyens d'investir dans cette plateforme. Ça va être aussi, on a des compagnies aujourd'hui qui sont un peu plus old school, pour utiliser encore de l'anglais. Là, par exemple, on est en train de discuter avec une coopérative de sirop d'érable. Pas forcément le même type startup, mais des gens qui ont vraiment compris que l'investissement donné n'était jamais inutile. Et après, évidemment, pour tout ce qui est côté migration, là, on va parler avec des plus grosses compagnies. T'as mentionné Reitmans, on a travaillé avec Spotify aussi dans le passé, Sonos, exactement, tout cela. En général, ils ont déjà, bien sûr, une équipe en place, ils ont beaucoup de technologies, mais il y a souvent des problématiques de migration et leur équipe en interne, soit n'a pas l'expertise, soit juste pas le temps avec tout le travail quotidien qui est à côté.
Et t'as parlé de Shopify, Spotify, excuse-moi, on les mêle des fois les deux. T'as parlé de Spotify, t'as parlé de Sonos, t'as parlé de Reitmans. On voit un petit peu pour quelles raisons ces entreprises-là vont venir voir. Es-tu capable de nous montrer un peu un cas de figure où une organisation était peut-être un petit peu orpheline de son data ou du moins ne le comprenait pas? Comment votre intervention dans l'entreprise s'est faite et qu'est-ce que ça l'a donné par la suite pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont peut-être besoin d'une organisation comme la vôtre, soient capables de comprendre exactement qu'est-ce qu'ils pourraient bénéficier s'ils avaient à travailler avec des membres de votre équipe?
Alors, est-ce qu'on a un cas spécifique que je pourrais décrire où le déploiement d'une plateforme de données a apporté un succès important à une compagnie spécifique?
Pour bien comprendre, prenons le cas de mon organisation. Donc, ouais. Je te donne un peu le contexte. Parce que mon but, c'est vraiment, j'ai un intérêt profond avec ça. Et je suis convaincu que les gens qui nous écoutent en ont un également. C'est de voir un peu comment ça pourrait nous aider. Donc, Si, disons, on prend une organisation comme la mienne, prestation de service, une quarantaine de joueurs qui travaillent avec nous, les métriques qui vont surtout nous importer pour notre organisation pourraient être la croissance de nos revenus, notre profitabilité, bien entendu, également peut-être avoir des informations sur les comptes recevables, les comptes payables. Donc ça, ça pourrait
être... On a sans doute les mêmes métriques d'ailleurs, Antoine.
On est des organisations qui se ressemblent beaucoup, on va le dire comme ça. Comment, ben d'ailleurs, puis ça peut être une bonne question, comment intègres-tu ton expertise à ton entreprise et comment ça pourrait s'appliquer par la suite pour une entreprise comme la mienne?
OK, ben écoute, que ce soit mon Ethics ou la tienne, en gros, l'intérêt que tu peux avoir à avoir une plateforme moderne de données, c'est que tu vas centraliser toutes tes différentes sources, d'accord? Tu vas centraliser ton CRM, tu vas importer les données de, si t'es une application SaaS, tu vas importer les données de ton application, ton trafic web, ton trafic de blog, t'as sans doute aussi tes terminaux de paiement si t'es plus en retail, par exemple. Donc, tout ça, c'est vraiment des sources très disparates de données, qui sont disponibles aujourd'hui, hein. Je crois qu'une compagnie, en moyenne, utilise 27 SaaS par employé. Donc, c'est beaucoup. Et toutes génèrent de la donnée et toutes ont leur dashboard, etc. Donc, c'est bien, mais ça aussi, c'est très très difficile à consommer et surtout moi ce que j'aime pas dans utiliser 50 dashboards de 50 applications, c'est que cette donnée elle a une opinion que pour cet outil. Donc par exemple si tu es sur un dashboard Stripe, tu vas seulement avoir de l'information qui est liée à Stripe et tu n'as pas de contexte en delà de ça. Donc c'est de l'information Stripe, c'est pas de l'information de ta business. Moi ce qu'on fait avec mon Ethics, c'est qu'on va accompagner nos clients sur OK, on va aller chercher toutes ces sources qui n'ont, pour nous, n'ont pas d'opinion, parce que c'est comme ça qu'on le considère. On va se faire dans un entrepôt et le vrai travail, la vraie expertise, nous, que je trouve qu'on apporte, c'est tout sur la modélisation. C'est-à-dire que par des ateliers qu'on fait avec nos clients, on va transformer cette donnée brute sans opinion dans une donnée qui a de l'opinion pour la business, pour la compagnie. Parce que, et l'avantage de faire cette méthodologie, c'est que si tu changes ton CRM, tu changes tes terminaux de paiement, tu changes peu importe, tes métriques restent les mêmes, mais ta source va changer. Et donc, pour l'utilisateur final, qui pour lui, c'est important que la définition de revenu soit la même ou que le nom même de la métrique qu'il utilise ne change pas, c'est hyper important pour que l'adoption et la confiance dans la donnée persistent. Que ces choses-là ne changent pas. Parce qu'elles vont changer, quoi qu'il arrive. C'est les... OK.
Non, mais c'est vrai. Puis je vois tout de suite, parce que tu as tellement raison. On a tous nos dashboards. Mais on a des dashboards selon plein de catégories différentes. Et là, à la fin de la journée, tu passes du dashboard de développement d'affaires au dashboard, comme on a parlé un petit peu plus tôt, du bonheur employé, au dashboard par la suite qui pourrait être relié au succès de tes clients en regardant les NPS. Et là, tu regardes tes contre... Et là, à la fin de la journée, c'est que tu as des opinions sur chacun des endroits, mais comment tout ça vit ensemble? J'imagine que c'est là que vous venez répondre à tout ça, là.
Exact. Et c'est impossible de donner l'aspect parce que tu peux analyser, t'as ton chiffre d'affaires comme tu le dis. Et puis après, t'analyses, par exemple, ton taux de capacité, tu sais, combien d'heures sont facturées par ressources, par exemple. Mais si t'as pas cette information qui a été modélisée en amont pour pouvoir faire ça dans le bon contexte, tu vas te retrouver avec ton information de chiffre d'affaires, ton information de facturation. Mais le mettre en commun, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils téléchargent un CSV ou un Excel et ils font ça dans Excel derrière. Et ça, c'est le pire qui, pas le pire, mais c'est quelque chose de néfaste pour une compagnie. Parce qu'à partir du moment où tu télécharges un extrait de données et tu le mets sur une feuille Excel, une Google Spreadsheet, peu importe, on déconnecte de la réalité parce que c'est plus live. Et surtout, la manipulation, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors là, c'est open bar, on peut dire ce qu'on veut sur les chiffres. Je sais, hein, je l'ai fait. C'était ma job quand j'étais en finance, hein, faire dire ce qu'on voulait aux chiffres.
Non, c'est excessivement intéressant. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui comprennent exactement ce que tu viens de dire, parce que c'est ce qu'on fait. On se bâtit des beaux dashboards et des fois des beaux Excel selon plein de catégories différentes. Et finalement, ça nous donne des opinions selon plein de catégories différentes. Mais quelle est l'opinion? Bon, une opinion, je ne sais pas s'il y en a une qui ressort, mais quel est le tempo qu'on est capable de donner à notre entreprise à la fin de journée? Parce que c'est ça que tu dois donner à des entreprises. Voici le tempo. Voici le tempo de ce qui se déroule, tout département combiné ensemble dans 1, 2, 3 ou 4 pages de dashboard, j'imagine.
Oui, et puis là, ce que tu mentionnes aussi, là, on touche après à l'expérience utilisateur, parce que c'est bien beau d'avoir une super plateforme de données, voilà, avec un super modèle de données qui marche très bien, qui a une belle opinion. Mais si derrière, les gens savent pas comment l'utiliser, ou alors on n'a pas prévu la gestion de changement nécessaire à l'utilisation d'un nouvel outil, par exemple, ça, tout cet investissement, on peut le jeter à la poubelle, en gros, ça ne sert à rien. Donc là aussi, nous, on essaie d'intervenir, c'est, ok, préparons l'intégration de ce nouvel outil là que vous avez utilisé, d'intelligence d'affaires, mettons. Assurons-nous que les gens comprennent ce qu'on essaye de faire sur la modélisation de données, etc. Et surtout, pour faire ce modèle de données, on va leur parler. C'est pas juste, nous, on arrive, on discute avec les 2-3 data engineers et puis le VP marketing, mettons. Non, on va aller voir les utilisateurs, c'est ok, c'est quoi ton quotidien? Où est-ce qu'on peut, en fait, améliorer ton quotidien et te faire gagner 1 ou 2 heures par jour à aller chercher la donnée, etc.
Intéressant, fascinant même. Cyril, avant de passer à des questions plus personnelles, à quoi ressemble le futur de Montreal Analytics?
J'aimerais bien le savoir. Écoute, pour l'instant...
Tu peux pas regarder tes dashboards, là? Ils vont pas te dire un peu la tendance?
Non, ça serait bien beau si un dashboard pouvait lire l'avenir. Nous, on l'a, pour 2023, l'axe, c'est vraiment développer des compétences un peu transverses. Aujourd'hui, on fait de l'ingestion jusqu'à l'exploration, mais la pile qui nous manque, c'est tout ce qui est machine learning, science de la donnée, et donc on va investir là-dedans en 2023 pour, avec nos clients, pouvoir leur proposer vraiment des services sur tout ce qui touche à la donnée. On a eu beaucoup de demandes, donc on va chercher un peu d'investissement pour aller générer plus rapidement cette nouvelle pratique.
Cyril, je pose toujours ces questions-là à mes invités. Est-ce que tu lis un peu certains livres d'affaires?
Oui, j'en ai lu quelques-uns depuis que je suis un vrai CEO, comme j'aime à dire.
Lequel a marqué ton imaginaire?
Il y en a un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Great CEO Within. Je sais pas si ça te parle. Ça a été un livre qui m'a bien influencé justement sur culture, voilà, process. Et j'ai pas le mot français, accountability, c'est vraiment que les gens soient, voilà, si on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait, et s'il y a des délais, on est proactif à le dire, mais voilà, c'est important que chez nous, il n'y ait pas cette chose dite sur le côté, et puis voilà, ça passe à l'oubli, et puis les gens sont frustrés parce que ça avance pas, etc. Donc ce livre, on n'a pas tout appliqué, hein, bien sûr, il y a tout un tas de choses que j'aimerais faire sans doute l'année prochaine, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et il y en a un autre aussi que j'ai bien aimé, juste avec quelques petits cherry picks, c'est le livre par le CEO de Snowflake qui s'appelle Amp It Up. Je me souviens plus du nom de l'auteur. Alors, c'est un livre très, très ultra capitalistique, American Way, Corporation, etc. Mais je trouve qu'il y a des choses qui font beaucoup de sens, surtout au niveau de l'exécution et de l'attente au niveau de l'équipe exécutive. Nous, on a avec moi 6 exécutifs dans la compagnie, et c'est la première fois que chacun est un exécutif dans une compagnie, et moi y compris, hein, on apprend tous. Et donc ça m'a beaucoup aidé à justement essayer de comprendre le rôle de l'exécutif et c'était quoi les responsabilités et les attentes que j'avais de l'équipe exécutive.
Intéressant. Podcast, est-ce que t'en écoutes un peu?
J'écoute beaucoup de podcasts data et j'écoute un podcast francophone qui s'appelle Cash Out, qui est un podcast qui est enregistré en France, qui est sur les expériences d'entrepreneurs qui ont fait un exit, en fait, et c'est leur expérience sur l'exit. Et donc, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que personne n'enseigne, ce genre de choses. C'est quand il y a un exit, c'est toujours l'apprentissage par le feu. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un podcast justement aussi transparent qu'on peut, discute du processus d'exit des entrepreneurs.
S'il y en a un autre que tu cherches à ce niveau-là, Build to Sell Podcast, très intéressant, c'est exactement Build la même sell. Chose. J'ai plus de...
Okay.
Build to Sell Podcast, ben c'est la personne qui a conçu le livre Build to Sell, qui est un des meilleurs livres que j'ai lu en affaires d'ailleurs. Et bon, la même personne a bâti son podcast. Et à chaque semaine, il interviewe des gens qui, dans le même contexte, ont bâti des entreprises qu'ils ont vendues. On parle du processus, on parle également du terme, on utilise ça en anglais, devenir exit ready. C'est-à-dire qu'une entreprise, tu ne la vends pas du jour au lendemain, tu dois la préparer pour qu'elle soit vendable. Hein? On doit préparer la mariée, comme on dit. Donc, il y a toutes ces différentes étapes-là. Très intéressant également, si ça peut t'intéresser. Dernière question que je te poserai. Ouais, tu vas regarder, c'est parfait.
je vais le mettre sur ma liste de Noël.
La liste de Noël. On a du temps pendant le temps des fêtes, des fois, pour écouter des podcasts. Faut en profiter, là. Et routine, ça ressemble à quoi de ton côté, Cyril? Avant, pendant et après le travail?
Alors, je me lève assez tôt. Moi, je suis quelqu'un de plutôt efficace le matin. Donc, ça me donne, je commence toujours entre 7h et 8h à mon bureau. Et ça me permet de me donner du temps de qualité avant que voilà le reste de l'équipe se connecte et que ça commence à partir un peu. Après, j'essaie de me bloquer du focus time là sur mon calendrier quand même pour pouvoir faire des choses. Mais après, bon, la journée elle s'enchaîne. J'aime bien. J'ai pas une très bonne discipline sur ma to-do list. C'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler l'année prochaine. Être beaucoup plus discipliné sur les choses que je me suis fixé en début de journée et les exécuter avant de passer à autre chose parce que j'ai tendance à être très attiré par la nouvelle tâche à faire au lieu de finir celle que je suis en train de faire. Mais après, voilà, je fais des pauses dans la journée, je vais prendre des marches. Le matin, j'aime bien prendre une marche tôt quand je me lève. Là, j'habite dans Montréal vers Verdun, donc je vais sur la plage, sur le fleuve. Là, je vais marcher un petit peu. Et après, voilà, je vais essayer de sortir un peu dans la journée si je peux. Comme on travaille de la maison, on n'a pas de bureau, on l'a pas dit, mais c'est important de sortir.
Vous n'avez pas de bureau, vous êtes 100% de la maison.
Donc voilà, c'est important de voir la lumière du jour un peu, mine de rien. Et alors après, en général, sur les coups de 6h, moi j'arrête et je passe sur mon téléphone. C'est-à-dire que je continue à travailler, mais depuis mon téléphone. Et occasionnellement, je réponds aux messages, je réponds aux courriels, je passe un appel. Et occasionnellement, voilà, je vais travailler le soir, là, si jamais il y a un besoin, ou la fin de semaine. Mais ces derniers 6 mois, j'ai essayé de plus freiner, parce qu'avant, c'était frénétique. Je travaillais de 7h du matin jusqu'à 22h, les 2 premières années, les fins de semaine, pas de vacances. J'ai toujours pas pris de vacances depuis 3 ans, mais j'ai décidé d'avoir une meilleure hygiène de vie, parce que c'est important aussi vis-à-vis de l'équipe, là, de montrer un peu l'exemple là-dessus, parce qu'on veut certainement que pas que personne se brûle au travail, y compris
moi. Bien sûr. Cyril, tu as une belle croissance présentement avec Montreal Analytics. Comment qu'on peut en apprendre plus sur vous? Est-ce que vous avez des postes ouverts? Ou si même, encore une fois, je répète, il y a des gens qui écoutent aujourd'hui le podcast et qui aimeraient en savoir plus sur vos services?
Notre site web, là, bien entendu, montrealanalytics.com. On a 2 blogs donc qui sont disponibles sur le site web. Un blog qui est plus business et un blog qui est plus technique. Après, voilà, je suis sur LinkedIn avec plaisir pour se connecter. Moi, je suis toujours ouvert à faire des rencontres. Et puis, voilà, si vous êtes à Montréal, on peut même se prendre un café ou autre chose avec grand plaisir. Mais voilà, c'est pas mal ça. Vu qu'on n'a pas de bureau...
Ouais, c'est ça. On va s'assurer que ça soit dans un café s'il y a des rencontres à ce niveau-là. Mais tu vois, c'est une nouvelle approche que beaucoup d'organisations prennent. Et je pense que ça peut être bon d'avoir des bureaux, ça peut être bon d'avoir un hybride et ça peut être bon d'avoir une organisation qui est 100% bâtie de la maison parce que ça fait que tu peux engager partout. Ça limite des coûts fixes, ces coûts que tu investirais dans des bureaux, tu peux les réinvestir dans tes employés, tu peux les réinvestir dans ta culture.
Exact. Mais chaque méthode a son enjeu. Il n'y a pas une méthode meilleure que d'autres. Ça dépend de la culture de la compagnie, encore une fois. Et c'est important. Nous, notre culture, c'est 100% remote. Donc, on a les processus en place pour s'assurer voilà, que les gens sont à l'aise à travailler de chez eux. Ils ont de l'argent à chaque paye pour payer leur Internet. Ils ont de l'argent pour leur bureau. Ils ont de l'argent pour peu importe. Donc, ils se sentent pas floués par le fait qu'on est 100% remote, par exemple. Et après, voilà, beaucoup de communication. Chaque semaine, on fait une newsletter interne. On récapitule tout ce qui s'est passé. On fait tous les mois, on a un all hands, un town hall. Là, le nom est pas encore bien fixé. On communique beaucoup. Transparence, encore une fois, est très important pour nous. Donc, dans un monde remote, c'est très, très important de faire plus de communication que moins. Comme ça, les gens se sentent pas détachés.
Intéressant. Cyril Marquez, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'était totalement fascinant comme entretien. Merci de nous avoir également aidé à mieux comprendre un petit peu tout ce que vous êtes capable de faire concernant les infrastructures de data. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont peut-être aller sur votre site web et vous poser quelques questions dans les prochaines semaines. Donc, je te remercie pour ça. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous.
aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode d'Hypercroissance. Oh.